15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous. Votre émission santé, c'est tous les jours de 15h à 16h. Je suis ravie d'être à vos côtés, enfin de chez moi, hein, vous qui nous écoutez ce lundi pour une émission toujours en partie consacrée aux questions que vous vous posez sur l'épidémie de coronavirus. Je précisais de chez moi parce que pour m'aider à vous répondre, bien sûr, il est là lui aussi. Et je suis un peu jalouse de le docteur Jimmy Mohamed est en studio, lui. Bonjour Jimmy.
Oui, bonjour Mélanie. J'ai fait un petit crochet exceptionnellement, mais je vous cache pas que c'est un grand plaisir d'être dans les locaux. On a hâte de votre tour.
Merci Jimmy. Allez, aujourd'hui, nous commencerons par interroger le docteur Patrick Bouet. Il est le président de l'Ordre National des Médecins. Quel bilan tire-t-il déjà de la crise sanitaire que nous venons de traverser? Crise qui n'est d'ailleurs pas forcément terminée. Restons vigilants. L'Ordre des Médecins va-t-il notamment sanctionner ceux qui, dans leur rang, sont un peu sortis des clous et ont testé des médicaments en dehors des protocoles cliniques validés par les autorités? Avec lui, nous parlerons aussi du secret médical. Est-il réellement respecté depuis le déconfinement et le traçage de chaque nouveau cas de coronavirus? Ensuite, dans la deuxième partie de Sans Rendez-vous, nous sortons un peu de cette épidémie, on fait un pas de côté. Nous recevrons le docteur Michel Raymond qui a publié un livre « Le pouvoir de guérir » chez Human Science, un ouvrage dont il va venir nous parler et qui nous en dit plus sur ce phénomène étrange de guérison sans médicament qu'est l'effet placebo. Vous verrez, ce sera passionnant. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre psychanalyste, qui va aujourd'hui tenter de décrypter les rêves d'une femme toujours confinée avec mari et enfant et dont la vie onirique révèle peut-être un certain ras-le-bol de la situation.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, docteur Patrick Bouet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Ordre National des Médecins, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Docteur Bouet, d'abord on va tenter avec vous de faire peut-être une sorte de bilan, même si tout n'est pas terminé évidemment. Est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que le système de santé français quand même n'était pas préparé à gérer ce qu'on a pris finalement en pleine figure?
Ah, on peut effectivement le dire. C'était d'ailleurs le cri d'alerte que nous lancions depuis plusieurs années en disant que notre système de santé était très fragile et il n'a pu affronter cette crise que par la mobilisation des hommes et des femmes qui le composent et qui ont réussi à se porter au devant de cette épidémie en protection de nos concitoyens et qui ont, dans ces deux mois et demi, pu éviter... pas assez, puisque malheureusement, il y a eu beaucoup de décès, mais malgré tout, on a pu éviter la catastrophe.
Docteur Jimmy Mohamed.
Alors, à l'hôpital, certes, ils ont tenu, on s'est adapté, mais les médecins et les autres soignants ont dû travailler dans des conditions exceptionnelles. On imagine que ça a dû être aussi compliqué pour les futurs soignants, les internes et les étudiants. Est-ce que, dans cette période, est-ce qu'on peut la comparer à une médecine de guerre, une situation assez exceptionnelle?
Non, je crois que le terme de médecine de guerre n'est pas bon. C'est pas une guerre qui a été menée, c'est une lutte pour la vie. Ça veut dire que globalement, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient confirmés ou qu'ils soient en formation, répondent tous à une vocation unique qui est d'aller au devant de la maladie pour en protéger nos concitoyens. Et forcément, aujourd'hui, les internes, les étudiants, les médecins retraités, les médecins salariés, les médecins hospitaliers, les médecins libéraux, tous sont allés au devant. Et tous les autres professionnels de santé également, les infirmiers, les masseurs kinésithérapeutes, les pharmaciens, tous se sont portés en protecteurs de la population. C'est pas une guerre, c'est une lutte pour la vie.
Docteur Bouet, pendant cette crise, il y a eu certains médecins qui sont sortis un petit peu des clous. Hein. Il y a eu notamment, tout le monde en a entendu parler évidemment, le professeur Raoult, qui navigue à contre-courant hein, tout de même des autres, puisqu'il a fait des protocoles qui n'étaient pas forcément des protocoles validés. Est-ce que vous allez entamer une procédure contre lui ou pas d'ailleurs?
Écoutez, le propos n'est pas de dire qu'on va entamer une procédure contre l'un ou pas contre l'autre. Il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est que dans toute crise, il ne faut pas perdre son sang-froid et ne pas tenter d'agir sur la crise au travers de convictions personnelles non scientifiquement démontrées. L'Ordre des médecins va convoquer et rencontrer tous ceux et toutes celles qui ont pris des distances avec cette obligation qui est la nôtre. Nous entendrons leurs explications et nous verrons ensuite ceux et celles de ses collègues qui ont contrevenu à la déontologie. Mais pour l'heure, nous sommes dans la phase de convocation et de rencontre au niveau des conseils départementaux.
Docteur Jimmy Mohamed.
D'ailleurs, c'est assez particulier. On a vu effectivement quelques médecins. Alors, ça reste à la marge. L'immense majorité a évidemment respecté les règles. Mais on a vu une vingtaine de médecins généralistes qui ont tenté des expériences, des trucs. Je ne sais pas comment on peut appeler ça pour leurs patients, avec chacun sa petite recette. Est-ce que vous pensez que ça pourrait, cette crise a pu faire peut-être perturber certains médecins en essayant malgré tout de faire au maximum? Et certains, lorsqu'on les interroge, disent qu'ils se sont servis du serment d'Hippocrate pour essayer de soigner les patients. Qu'est-ce que vous leur répondez?
Je dis que le serment d'Hippocrate, c'est donner à nos patients des traitements confirmés et validés scientifiquement. Nous ne sommes pas là pour jouer aux apprentis sorciers avec des médicaments, même s'ils sont déjà utilisés dans d'autres affections. Les choses sont trop graves et les conséquences sont trop lourdes aujourd'hui. Il faut impérativement que nos collègues gardent leur sang-froid, qu'ils soient cliniciens ou qu'ils soient scientifiques. Il faut arrêter de vouloir aller au devant de quelque chose, mais au contraire, utiliser tout son savoir, toutes ses connaissances, toute la science telle qu'elle est validée pour agir et pas se laisser aller à des tentatives ou des tentations qui ne sont pas appuyées sur des données scientifiques.
Mais docteur Bouet, comment vous expliquez que notamment certains généralistes, je crois qu'il y en a quand même une vingtaine, non, qui ont testé des protocoles et qui ont même médiatisé la chose en disant « alors moi j'y mets un peu de zinc, un peu de poudre de perlimpinpin », enfin je schématise bien sûr et je plaisante là, mais il y en a qui avaient leur cocktail à eux, entre guillemets, et puis ils n'ont pas hésité même à le médiatiser, notamment dans la presse locale. Enfin, ça veut dire que quand même cet épisode a fait un peu, je ne sais pas, tourner la tête, a fait vriller certains médecins quand même, parce que aller médiatiser quelque chose qui est hors clou, c'est quand même bizarre, non?
Mais c'est bien ce sur quoi nous allons leur demander un certain nombre d'explications. Mais vous savez, une vingtaine, disons-nous. À côté de ça, il y a 300 000 médecins qui exercent en France. Ça veut dire qu'il y en a 289 980 qui ont fait les choses comme la déontologie le demande. Alors, nous demanderons des explications à ceux qui se sont écartés de la déontologie. Mais moi, je veux surtout rendre hommage à tous ceux qui ont respecté la déontologie et qui ont lutté pour sauver la vie de leurs patients.
Et docteur Bouet, d'ailleurs, puisque nous, les auditeurs, ce sont souvent des patients qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez, effectivement, enfin, comment ils doivent réagir, ces patients qui nous écoutent, si leur médecin leur a peut-être proposé, justement, pendant cette crise, un cocktail de traitement à sa sauce, on va dire? Comment doivent réagir les patients, d'ailleurs, en ce moment, mais même en temps normal, hein, si on n'est pas certain, enfin, qui en contacte, comment on se plaint, enfin, comment ça se passe pour les patients?
Bah, écoutez, il y a une voie qui est la voie ordinale, hein, c'est-à-dire que quand on a un doute sur la façon dont on a été pris en charge par un professionnel de santé et notamment par un médecin pour l'ordre des médecins, on interroge l'institution ordinale. Et puis il y a bien entendu, je dirais, les juridictions classiques qui peuvent agir. Mais l'ordre est là pour ça. Il est là pour écouter les patients, écouter les professionnels, permettre à ces acteurs et à ces patients de se parler, et il agit quand il doit agir pour sanctionner d'éventuelles dérives ou pour rappeler ce qu'on appelle un rappel à l'ordre, pour rappeler au bon usage de la déontologie. Donc les patients qui doutent, qui ont une question, eh bien, ils peuvent s'adresser au conseil départemental du département où ils habitent et puis interpeller le conseil départemental.
Très bien. Docteur Jimmy Mohamed.
On s'est beaucoup trompé. Un coup, on met des masques. Un coup, on n'en met pas. Un coup, c'est grave. Un coup, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir beaucoup de travail pour mettre un petit peu d'ordre et que la confiance est rompue vis-à-vis des patients, ou finalement, on a appris de nos erreurs et on ne va pas dire qu'il y a une forme d'indulgence, mais les gens ont compris qu'on naviguait à vue depuis quelque temps?
Écoutez, il y a deux réponses à votre question. La première, c'est qu'on a trompé les professionnels de santé. Je veux le rappeler. Cette crise des masques, elle a d'abord et au départ été une crise de la protection des professionnels de santé. Un certain nombre d'entre eux ont été malades, un certain nombre d'entre eux l'ont payé de leur vie. Et ça, c'est un rendez-vous que nous avons avec le monde politique qui devra nous expliquer pourquoi il y a eu ce discours à niveau différent s'agissant de la protection des professionnels de santé. Et puis ensuite, il y a la façon dont on a géré la protection des personnes. Et il faut toujours le rappeler, le masque, c'est une chose parmi d'autres. Ce sont les distances barrières, c'est la distanciation sociale, ce sont les gestes barrières, c'est tout ce qui permet aujourd'hui de limiter la contagiosité. Et le masque est un élément dont on voit aujourd'hui qu'il est nécessaire, qu'il est utile, et on comprend que finalement, à un moment, on est penser que la priorité était aux mesures barrières et qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il faut aussi apporter des mesures complémentaires, surtout dans un certain nombre de lieux exposés particulièrement. Je pense au transport en commun par exemple, mais il y aurait bien d'autres lieux dans lesquels il faudrait également probablement les utiliser. Vous savez, nous étions tout à fait pour que le port du masque soit obligatoire dans l'ensemble de la population. Ça nous paraissait une mesure simple à comprendre et simple à mettre en œuvre, tout au moins à partir du moment où on avait les moyens matériels d'assurer ces masques à tous.
Merci docteur Bouet, on n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, sans rendez-vous, votre émission Santé revient. Aujourd'hui, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins est avec nous. Avec lui, juste après, nous allons parler du déconfinement. Les conditions de ce dernier sont-elles d'ailleurs optimales pour que les médecins respectent le secret médical? Il nous dira tout ça. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors il est toujours en ligne avec nous, le docteur Patrick Bouet. Vous êtes le président de l'Ordre National des Médecins. Docteur Bouet, depuis le 11 mai, d'abord, la population est sortie du confinement. D'abord, est-ce que vous pensez que les conditions étaient vraiment réunies pour qu'on laisse les Français finalement reprendre en partie leur liberté?
Je pense que les conditions étaient réunies à partir du moment où on avait pris toutes les garanties pour suivre le déconfinement et pour repérer précocement tout ce qui pouvait être nouvel espace ou nouvelle zone de contamination. Quant à savoir si le déconfinement devait se faire en une seule fois, sûrement pas. D'ailleurs, nous l'avions dit au niveau des écoles et il fallait envisager un déconfinement progressif, prudent, respectueux des mesures de protection et en même temps très bien organisé pour repérer très rapidement tout risque de reprise du développement de l'épidémie, puisque nous savons que le virus, lui, circule. Oui.
Est-ce que vous craignez, vous, une deuxième vague ou pas, d'ailleurs ?
Ce que nous craignons, nous, la deuxième vague est une notion qui est une notion très statistique. Ce que nous craignons, nous, c'est qu'il y ait une reprise au-delà de la circulation du virus, une reprise de l'épidémie qui pourrait être une reprise qui réamène à nouveau les patients à courir des risques de complications, voire à être hospitalisés. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est gérer de façon très ferme l'ensemble du processus qui consiste à repérer et à mettre en œuvre les mesures pour les personnes qui sont contaminées ou contaminantes.
Docteur Jimmy Mohamed.
Les patients ont fui les cabinets de médecine générale de peur d'attraper le coronavirus. Est-ce que vous craignez de gros dégâts collatéraux, notamment sur les patients chroniques et puis aussi les patients qui allaient bien mais chez qui on n'a pas fait de diagnostic, et derrière avoir une deuxième vague, mais peut-être pas forcément que du Covid, mais avec les conséquences de l'absence de recours aux soins?
Alors écoutez, ce que je veux dire d'abord, c'est que les patients ont quitté les cabinets parce qu'on leur a dit de ne pas y aller. Il ne faut pas penser que les patients ne sont pas allés dans les cabinets au début de cette épidémie parce qu'ils avaient peur. Ils n'y sont pas allés parce qu'on leur a dit « il ne faut plus vous déplacer ». Et nous avons à l'époque alerté en disant « attention, à partir du moment où des patients ne vont plus se faire suivre par des médecins, nous courons des risques vis-à-vis des autres pathologies ». Et nous voyons bien aujourd'hui, et c'est heureux que nous ayons enfin été entendu. Nous voyons bien aujourd'hui qu'un certain nombre de maladies chroniques se sont aggravées, qu'il y aura des retards au diagnostic et des pertes de chance, et qu'aujourd'hui, cette partie-là de l'occupation de l'ensemble du monde de la santé va aller crescendo en même temps que la maladie Covid elle-même pourrait se redévelopper. Et nous avons très peur, nous, médecins, que ce soit en ville ou que ce soit à l'hôpital, des pertes de chance ou des retards au diagnostic qu'auront été entraînés par cette situation.
Oui, ce bilan plus ou moins lourd, on ne le verra que dans quelques mois, évidemment. Dès le 7 mai, l'Ordre des médecins, Dr Bouet, a exhorté le gouvernement de garantir le respect du secret médical avec le déconfinement et le traçage des patients. Qu'est-ce que vous craignez à ce moment-là ?
Mais écoutez, à ce moment-là, nous craignons deux choses. La première, c'est que dans toute situation d'urgence, on puisse prendre des mesures qui soient des mesures qui contreviennent aux libertés individuelles, et le secret médical est une de ces libertés fondamentales. La deuxième, c'est que finalement, on partage des données dans des systèmes non sécurisés, non étanche et accessible à des personnes qui n'avaient pas y accédé. Donc notre demande a été une demande très forte et nous avons, je dirais, utilisé tous les moyens nécessaires pour que à la fois le gouvernement et à la fois les parlementaires, et confirmé par le Conseil constitutionnel en dernier ressort, nous encadrions au maximum la situation et que nous la fassions ressembler à ce que nous connaissions déjà, c'est-à-dire les maladies à déclaration obligatoire qui sont elles-mêmes encadrées et qui déjà protégeaient les personnes vis-à-vis d'une diffusion des données les concernant.
Donc aujourd'hui, ça va de ce point de vue-là?
Écoutez, aujourd'hui, nous avons pris toutes les mesures, nous avons encadré le dispositif et nous avons été entendus par le gouvernement. Maintenant, nous allons le voir à l'œuvre, mais il y a un comité de suivi qui va être mis en place et qui a pour fonction justement de contrôler ce système.
Docteur Jimmy Mohamed.
Bon, et puis il y a le monde médical de demain. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a parlé ce week-end du lancement du Ségur de la Santé après le plan Ma Santé 2022. Une nouvelle stratégie, encore une. Qu'est-ce qui doit être fondamentalement présent dans ce nouveau plan, selon vous ?
Écoutez, en tout cas, il ne faut pas qu'on rejoue la même partie que celle qu'on vient de jouer depuis 20 ans. C'est-à-dire une grande réunion de tous les acteurs qui finalement débouche sur un dispositif qui a pour effet de renforcer les côtés négatifs du système.
Nous pensons que des réunions, des concertations, des machins,
On a eu la conférence nationale de santé. Enfin, chaque ministre a finalement eu son Ségur à lui. Mais ce que nous voulons, nous, aujourd'hui, c'est dire, attention, la preuve est faite que ce système n'a tenu que par les hommes et les femmes qui y travaillent. Ça veut donc dire qu'il faut repenser la totalité de ce dispositif. Pas seulement l'hôpital, mais l'ensemble du dispositif du système de santé, la façon dont il coopère et dont il travaille au service de la population, et surtout investir. Il faut aujourd'hui considérer que la santé, ça n'est pas un coût, c'est une chance pour la population. C'est ce que nous venons de démontrer, nous, professionnels de santé, depuis plusieurs mois maintenant, c'est que nous préservons une des libertés fondamentales de notre République. Cette bientraitance républicaine, la santé en est un des éléments fondamentaux. Il faut donc que le ministre, aujourd'hui et demain, ait un objectif de transformation de l'ensemble du système de santé pour améliorer sa compétence et sa performance au service des hommes et des femmes.
Professeur Bouet, une dernière question pour finir rapidement. Beaucoup de Français, de patients ont eu la sensation pendant cette crise que d'autres pays, notamment l'Allemagne, ont su mieux gérer les choses que nous. À votre avis, rapidement ?
Je ne crois pas qu'ils ont mieux géré, mais ils partaient d'un système et d'un dispositif qui peut-être leur a permis d'être plus efficaces. Nous n'avons fait reposer ce dispositif que sur l'engagement des hommes et des femmes qui y travaillent. Peut-être que dans d'autres pays, on avait investi dans le système de santé, on avait investi dans la coopération entre les professionnels. Oui. C'est maintenant à nous de démontrer que nous pouvons le faire.
Merci beaucoup, docteur Bouet, d'avoir été avec nous pour cet entretien très intéressant. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions, celles encore nombreuses que vous nous laissez tous les jours sur le répondeur d'Europe 1. Tout ça, c'est dans quelques minutes. À tout de suite.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h en santé, à mes côtés toujours bien sûr, enfin à mes côtés, lui il est en studio et puis moi je suis chez moi, donc c'est comme ça. À présent Jimmy, je serai de retour lundi, après tout il n'y a pas que vous qui avez le droit de revenir dans les locaux d'Europe 1. Alors à présent Jimmy, on va prendre le temps de répondre à quelques, on sent ma jalousie un petit peu dans ma voix, j'en suis sûr, quelques-unes des nombreuses questions des auditeurs d'Europe 1, Jimmy, puisque vous êtes sur place, ça va être simple d'y répondre. Alors on va commencer par la question de Catherine, on l'écoute.
J'ai 65 ans, j'ai fait une rencontre il y a 3 mois. Je vis seule. Comment je vais pouvoir rencontrer cet ami, revoir plutôt cet ami? Quels sont les risques, étant donné que je ne vois personne depuis 2 mois? Merci de votre réponse. Au revoir.
Bon, on a souvent des questions comme ça, Jimmy, de gens qui ont des amis, des amants, qui veulent retrouver. C'est beaucoup de questions autour de ça en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Catherine qui veut revoir, donc, a priori, je ne sais pas, cet homme, non, je pense qu'elle a rencontré il y a quelques mois.
Alors, c'est vrai que c'est compliqué, puisqu'on sait qu'une personne sur deux est asymptomatique et une contamination sur deux, et il y a une personne qui n'avait pas de symptômes. Ça veut donc dire que même en l'absence de toux, de fièvre, vous pouvez transmettre le virus. En revanche, la Catherine, si ça fait 2 mois qu'elle est confinée correctement, elle n'est pas à risque. Donc pour elle, ça va. En revanche, pour son ami, je ne sais pas ce qu'il en est. La seule chose, c'est que s'il s'est protégé de la même façon et si lorsqu'il sort dehors, qu'il met un masque, il respecte la distanciation physique, il se lave les mains, il n'est pas en contact avec des malades, le risque est limité. Et puis, au bout d'un moment, il faut qu'on puisse revivre. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a eu des morts, mais malgré tout, 65 ans, elle nous dit qu'elle est seule. Je ne suis pas sûr que la perspective de rester tout l'été encore sans contact soit forcément meilleure, nous, dans notre vie de tous les jours. On embrasse notre compagne, je pense que vous embrassez votre mari, Mélanie, et pourtant on sait qu'il y a un risque. Maintenant, il faut calculer ce risque, il faut avoir conscience qu'il est possible, et surtout, si jamais il y a le moindre symptôme, ce serait le moment d'aller voir votre médecin.
Très bien. Alors Jimmy, on va répondre à une autre question. C'est celle de Jean-Luc qui nous demande, alors il nous a écrit Jean-Luc, il nous demande s'il est nécessaire de porter un masque quand on est dans sa voiture personnelle. Il dit qu'il voit beaucoup d'automobilistes masqués mais qui ne comprend pas bien l'utilité quand on est seul dans sa propre voiture.
Non, effectivement, quand on est seul dans un véhicule, il n'y a strictement aucun intérêt à porter un masque. Ça peut se poser pour les VTC et les taxis évidemment. En revanche, vous pourrez me voir en voiture lorsque je circule avec un masque puisque je le mets dès que je pars de chez moi pour éviter de le manipuler. Donc très certainement que c'est des gens...
Une fois qu'on l'a mis, on l'enlève plus.
Exactement.
C'est ce que vous avez dit pendant 4 heures pour les économiser aussi, parce qu'on ne va pas en changer toutes les heures. Hein, c'est
exactement.
Ça.
Donc éviter de se contaminer en le mettant et en l'enlevant, c'est peut-être simplement un réflexe que les gens ont adopté. Donc je pense que ce n'est pas plus mal. Et puis finalement, quand vous voyez des gens mettre un masque, spontanément vous vous dites bah tiens pourquoi j'en ai pas, et puis on augmente la distanciation physique, vous avez quelqu'un qui a un masque, vous n'avez pas envie d'aller vers lui. Donc moi ça me choque absolument pas, même si effectivement dans une voiture seule il n'y a pas d'intérêt.
Très bien. Jimmy, on va prendre une autre question qu'on a reçue elle aussi sur le 3921, c'est celle d'Eliane. On écoute tout de suite.
Je voulais demander à Mélanie Gomez, voire aussi le docteur Jimmy Mohamed, comment se fait-il que dans toutes les précautions qu'on nous demande de prendre, il n'ait jamais été redemandé, redit, de ne plus cracher par terre. C'est une chose qui était interdite dans les années 50-60, c'était sur les murs de certains monuments. De nos jours, c'était devenu très à la mode avec tous nos footeux qui crachent régulièrement sur le gazon des stades. C'est dégoûtant en plus. Voilà. Je vous remercie. À bientôt peut-être.
Eliane, elle a l'air en colère, mais cela dit, je la comprends parce que moi, quand je vois des gens cracher dans la rue, je trouve ça. Mais Covid ou pas Covid, c'est juste dégoûtant, on est d'accord?
Oui, c'est vrai qu'Eliane a raison, elle fait plaisir. C'est vrai qu'il y a une mode de cracher par terre, peut-être relayée par des sportifs, je ne sais pas. En tout cas, évidemment, c'est sale. Deuxième chose, c'est que lorsque vous crachez, s'il y a des gens à proximité, vous allez émettre une énorme quantité de postillons, de gouttelettes qui vont peut-être contaminer des gens s'ils sont juste à côté de vous. Et puis enfin, n'oubliez pas que le virus peut survivre de nombreuses heures sur des surfaces inertes. Et donc, si vous crachez et qu'il y a des potions qui arrivent sur un banc et que quelqu'un, un enfant passe par ici, il y a un risque, même si celui-ci est faible, de contaminer les gens. Donc évidemment que ce n'est absolument pas quelque chose qu'il faut faire, même si ça s'appelle de l'éducation civique, hein, ça n'a rien à voir avec le coronavirus.
C'est ça, mais on crache pas par terre, c'est tout. On va prendre une dernière question, encore une laissée sur notre répondeur ici à Europe 1, donc le 3921. Je le rappelle, au passage, le 3921, c'est 50 centimes d'euros la minute, certes, mais en ce moment, toute l'intégralité donc, de cette somme est reversée à l'Institut Pasteur. Donc on écoute la question de Catherine.
J'ai porté mon masque seulement une heure, le temps de faire une course près de chez moi. Puis-je le réutiliser le lendemain, après l'avoir utilisé si peu de temps? Qu'est-ce que je fais de ce masque? Même une heure, il peut être contaminé. Voilà, merci de votre réponse. À bientôt, au revoir.
Bon, Jimmy, encore une question autour des masques. Je crois qu'elle donne la réponse presque dans sa question, on est d'accord?
Oui, c'est une très bonne question parce qu'elle aborde elle-même le fait de la contamination. Pas tant le fait de savoir que si le masque est utilisable ou pas. Effectivement, si vous êtes sorti, le masque est peut-être en contact avec du virus. Et à ce moment-là, si vous le remettez dans l'après-midi, vous risquez d'être contaminé. Donc si c'est un masque en tissu, je vous conseille de faire très attention, de le relaver éventuellement le soir. Et si vous ne le faites pas, au moins de le laisser dans un endroit propre pour éventuellement, s'il y avait des traces du virus, celui-ci soit autodétruit pour pouvoir éventuellement le réutiliser le lendemain. On est dans une période où on a un peu plus de masques. Alors c'est vrai que ce n'est pas à la portée des budgets, de chacun, mais je pense que si possible, il faut le laver ou au moins ne pas le remettre tout de suite parce qu'il y a un risque de contamination même s'il est faible.
Merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Ça, rendez-vous revient dans un instant avec la partie bien-être de notre émission. Pour cela, nous allons recevoir le docteur Michel Raymond qui va nous livrer tous les secrets de l'énigmatique effet placebo quand l'on guérit sans médicaments. Mais avant ça, place à la musique sur Europe 1 avec la chanteuse Clara Luciani et son titre intitulé « Ma sœur ». Thank you. C'était Clara Luciani avec son morceau Ma sœur.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Alors à présent, nous accueillons en ligne le docteur Michel Raymond. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et auteur du livre Le pouvoir de guérir chez Human Science. Alors avec vous d'abord, on va faire un petit détour historique pour commencer cet entretien. D'abord, les premiers médecins, finalement, ça date de quand dans l'histoire? C'était bon, l'Antiquité j'imagine, mais à l'époque ça devait être vu comme de la magie, non, la médecine?
Voilà, quand on cherche à savoir d'où vient la médecine, alors on peut faire une recherche un peu historique et voir jusqu'à quand on avait des médecins dans l'histoire humaine. Et c'est sûr que bon, il y en avait chez les Romains, par exemple, chez les Grecs, chez les Égyptiens. Et quand on remonte plus loin, il y avait même en Mésopotamie, là, chez les Sumériens. Et avant les Sumériens, on n'a pas de traces historiques, puisque l'écriture est apparue à ce moment-là. Mais par contre, on peut faire une recherche un peu dans les différentes ethnies, puisque culturellement, les différentes cultures humaines, dans certains endroits, se sont séparées depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Et à chaque fois, effectivement, on voit des médecins et une certaine médecine. Et le point commun à toutes ces médecines, c'est qu'il y a toujours des médicaments et une partie magique. Et ces deux aspects, médicaments et magie, sont présents dans toutes les médecines humaines que l'on connaisse, aussi bien présentes que dans le passé.
Très bien. Docteur Jimmy Mohamed.
Vous avez parlé un petit peu des Égyptiens. J'ai cru comprendre qu'ils utilisaient beaucoup de plantes, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de médicaments tels qu'on les connaît maintenant.
Ils utilisaient énormément de plantes, des produits animaux, des produits minéraux. Mais dans toutes les médecines que l'on connaît, il y a énormément de plantes. Et la raison pour cela, c'est que dans les plantes, il y a beaucoup de produits secondaires qui sont des composés chimiques que les plantes développent pour se défendre contre les herbivores, contre une série de prédateurs. Et donc, ces produits ont des propriétés contre d'autres espèces, contre des bactéries, etc. Et on peut les utiliser, c'est pour ça qu'elles sont utilisées et détournées quand elles sont consommées et données en médicaments pour lutter contre les pathogènes humains.
La médecine, elle évolue et elle n'est pas parfaite. Vous faites référence dans votre livre à une étude qui montre les erreurs médicales qui sont donc la troisième cause de mortalité. C'est dû à quoi? Les médecins, ils sont résistants à l'innovation?
Dans l'histoire de la médecine, effectivement, il y a un grand conservatisme de la médecine. Par exemple, quand la quinine a été proposée pour traiter la malaria, c'était au XVIIe. La médecine s'est complètement opposée à ce médicament parce que ça ne suivait pas les règles hippocratiques qui ont lieu pendant des siècles. Et effectivement, c'est quand la médecine est devenue un peu scientifique au 19e, avec tout l'apport de Pasteur, qu'il y a eu une démarche scientifique et qu'il y a eu des avancées considérables. Mais c'est sûr que les changements ne sont pas faciles dans le corps médical, c'est clair.
Ouais. Docteur Jimmy Mohamed.
Alors revenons au sujet principal de votre livre, l'effet placebo. Le mot finalement est assez récent. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que ça signifie?
Alors placebo, ça veut dire en latin, c'est-à-dire je plairais. C'est un mot qui apparaît dans la littérature médicale au 19e siècle, mais qui apparaît dans les dictionnaires usuels qu'il y a dans les années 60 ou 70. Et à peu près 30 ans plus tard, il y a l'effet placebo qui apparaît. Alors, un placebo, c'est un médicament qui n'a pas de propriété thérapeutique en lui-même. Et l'effet placebo, c'est l'effet thérapeutique qu'il a quand on le donne, alors que chimiquement, il est inerte. Alors, pour comprendre cet effet placebo, il faut revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'origine médicament et magie. On peut voir l'effet placebo actuel comme la partie magique de la médecine moderne. Puisque il suffit de donner un médicament, enfin un placebo, donc qui n'a pas d'effet thérapeutique, pour avoir un effet thérapeutique en dehors de la physiologie même chimique du médicament. Et on connaît pas mal de propriétés qui modifient cet effet placebo. Par exemple, quand le prix est plus cher, ça augmente l'effet placebo, quand les couleurs, l'étiquetage, etc.
On en parlera juste après. Vous dites aussi, je crois, dans l'effet placebo, finalement, il y a déjà des personnes qui sont impressionnantes en eux-mêmes, c'est-à-dire les médecins, par exemple, ils procurent un effet placebo presque naturel, parfois par leur présence. C'est ce qu'on appelle le fameux effet blouse blanche, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que pour comprendre l'effet placebo, Il peut se situer au niveau du médicament par un prix élevé qui augmente l'effet thérapeutique, par exemple, mais c'est surtout parce que c'est un médecin qui donne ce médicament. Et le médecin a donc un effet placebo. Et plus il est empathique et plus il est avenant, etc., plus il passe de temps, d'ailleurs, avec le patient, plus l'effet placebo, donc l'effet thérapeutique de guérison qu'il va procurer, va être important.
Et chez les enfants, ça marche encore mieux que chez les adultes, hein, je crois, cet effet-là de la blouse blanche, en tout cas.
Ça marche encore mieux parce que pour un enfant, un adulte même est une personne impressionnante. Ouais. Et donc un médecin qui est en plus un adulte, forcément, il est extrêmement impressionnant pour un enfant. Et les études montrent que l'effet placebo pour les enfants diminue l'intensité au fur et à mesure que l'enfant grandit, c'est-à-dire au fur et à mesure que la différence entre l'enfant et l'adulte diminue. Donc quand l'adulte devient de moins en moins impressionnant, ça diminue un petit peu l'effet placebo.
Docteur Michel Raymond, on va s'arrêter quelques minutes, mais on n'en a pas terminé avec vous. On se retrouve juste après.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à décrypter l'effet placebo, à tenter de comprendre ce qu'il se passe chez nous quand nous accédons à ce pouvoir de guérir sans médicaments. Vous verrez par exemple qu'on a plus de chances, face à la découverte du maladie, de guérir. Si le médecin, il nous l'a déjà un peu dit, le docteur Raymond, en face de nous, est plus empathique. On va vous expliquer tout ça. Restez sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors, il est toujours en ligne avec nous, le docteur Michel Raymond. Vous êtes le directeur de recherche au CNRS et auteur du livre Le pouvoir de guérir chez Human Science. Avec vous, on détaille donc les ressorts de l'effet placebo, ce pouvoir qui fonctionne et permet parfois même aux gens de guérir sans médicaments. Alors, vous disiez tout à l'heure que l'effet des personnes un peu impressionnantes, les médecins parfois, surtout si ce médecin, ce généraliste par exemple, il est optimiste, il est empathique, ça peut aider tout seul quelque part à guérir. Est-ce que ça veut dire que certains médecins, finalement, avec ces médecins-là, le lien social aussi, le côté lien social, c'est très important dans cet effet placebo?
Ah oui, tout à fait. Le lien social est très important. Donc, bon, on sait aussi que, par exemple, quand un médecin est plus empathique, ça, et en général, les femmes médecins sont plus empathiques. Allô?
Oui, oui, on est toujours là, on vous écoute.
Ah, non, non,
les femmes médecins sont, les femmes médecins sont plus empathiques, vous disiez, oui.
Voilà, les femmes médecins sont plus empathiques et ça a des conséquences sur la guérison. Il y a une étude aux États-Unis qui a montré que ça entraînait une baisse de mortalité. Donc en gros, quand les gens étaient soignés par des hommes plutôt que par des femmes, ça fait une surmortalité de 0,42%.
Oui.
Et ce qui fait quand même le résultat sur la population des États-Unis, c'est à peu près une surmortalité de 32 000 morts par an. Donc c'est pas rien le fait d'avoir un aspect humain dans les relations entre le médecin et le patient.
Et vous dites que justement ce lien social il est très important. Alors au-delà du médecin, même de s'entourer de d'autres personnes, on va dire bienveillantes, ça veut dire que certains médecins pourraient jouer de ça peut-être en délivrant à un malade, je ne sais pas, une ordonnance avec écrit dessus, trouvez-vous un ami, organisez une soirée sympathique avec vos voisins. Ça augmente vraiment ce bon lien social entre guillemets, les chances de guérir sans médicaments.
Tout à fait. D'autant plus que depuis un demi-siècle, là, les relations sociales ont fortement diminué. Il y a plein d'indicateurs qui le montrent. C'était une conséquence, par exemple, de l'apparition de la télévision. Comme les gens passent 2-3 heures en moyenne par jour devant leur poste, et ça, c'est autant de relations sociales en moins. Et donc, dans ce paysage où les relations sociales sont diminuées, tout facteur qui augmente les relations sociales va avoir un effet placebo, un effet thérapeutique, un effet sur la santé.
Donc en ce moment, avec l'épidémie coronavirus qui nous a quand même tous un peu éloignés les uns des autres, ça ne va pas nous aider à guérir tout ça.
C'est sûr que le confinement qui diminue les relations sociales n'aide pas dans ce contexte, tout à fait.
Jimmy Mohamed.
Un exemple que vous donnez pour comprendre comment ça peut fonctionner, il est possible de savoir qui a gagné ou perdu un match simplement en regardant le taux de testostérone des joueurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Oui, parce que dans des compétitions, quand il y a une compétition et quand il y a un combat ou un combat ritualisé, puisqu'un sport c'est un sport de combat ritualisé, le gagnant, il voit sa testostérone augmenter, parce qu'il a, s'il a gagné un combat, c'est qu'il a gagné en statut. Alors dans les sports, il a gagné dans l'échelle de la compétition. Dans les combats animaux, il a gagné en statut social. Et le perdant, sa testostérone diminue. Et ça a été montré donc dans les équipes de foot, par exemple. Mais les supporters, il y a le même effet. Donc les supporters de l'équipe, par exemple, qui va gagner, voient leur testostérone monter juste à l'issue du match, et c'est le contraire pour les supporters des perdants. Donc effectivement, il y a plein d'interactions sociales qui modifient les taux hormonaux.
Docteur Raymond, vous avez dit tout à l'heure un petit peu, mais on n'a pas détaillé pourquoi, que le prix finalement d'un médicament, ça compte dans cet effet placebo, on va dire. Plus c'est cher, plus on se dit qu'il fera un effet, c'est ça?
Disons, on interprète que un prix élevé a un meilleur effet, augmente l'effet placebo uniquement parce que c'est un médicament plus cher et quelque chose de plus précieux, de plus important. Donc ça contribue au fait que le médecin s'occupe plus de nous en nous donnant quelque chose de plus cher, par exemple. Mais le véritable effet, qui passe là par le prix, passe par l'importance que le médecin accorde à son patient. C'est juste l'expression de cette attention.
D'accord. Docteur Jimmy Mohamed.
Pourtant, l'exemple est intéressant, mais on a un contre-exemple, c'est l'homéopathie. Ça coûte pas très cher et à ce jour, à part un effet placebo, je ne sais pas si un traitement a jamais fait preuve d'une quelconque efficacité.
Alors, les médicaments homéopathiques sont un excellent exemple. On sait que le médicament lui-même n'a aucune efficacité puisqu'il n'y a aucune molécule active, par définition de la construction des médicaments homéopathiques. Par contre, le médecin homéopathe passe énormément de temps, une heure en moyenne, hein, contre moins d'un quart d'heure pour un médecin traditionnel. Donc, le fait qu'il passe énormément de temps, du coup d'attention, d'empathie, etc., ça suscite un effet placebo beaucoup plus fort. Et donc, actuellement, l'homéopathie suscite énormément d'effets placebo, malgré le fait que le médicament placebo, lui, n'a aucune matière active. Donc, effectivement, il y a un effet thérapeutique de l'homéopathie.
Est-ce que l'effet placebo, il marche que chez les êtres humains ou est-ce qu'il fonctionne aussi chez les animaux, par exemple?
Alors, pour savoir s'il marche sur les animaux, il faut trouver en gros quoi il correspond. Et quand on essaye de définir l'effet placebo, donc on a vu que c'était l'effet thérapeutique du médecin sur son patient, mais de manière plus générale, dans une société où il y a une hiérarchie avec des dominants et des dominés, quand l'effet du dominant sur le dominé, là dans le cas particulier de la relation médecin-patient, peut être généralisé à d'autres types d'interactions, et quand il y a un dominant qui s'intéresse à un dominé, ça crée des changements hormonaux qui, dans le cas particulier de la relation médecin-patient, s'appelle l'effet placebo. Et donc, effectivement, il y a plein de sociétés animales qui sont hiérarchisées, et on peut trouver des équivalents de l'effet placebo quand des dominants s'occupent de dominer. Sur le dominé, ça lui fait un effet, des changements physiologiques qui ont des effets aussi sur leur santé. Donc, effectivement, on peut replacer l'effet placebo dans un cadre évolutif beaucoup plus large dans les sociétés animales.
Merci beaucoup docteur Michel Raymond d'avoir été notre invité pour nous aider un peu mieux à comprendre les secrets de l'effet placebo. Je rappelle le titre de votre livre, Le pouvoir de guérir, publié chez Human Science.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc, comme tous les jours à la fin de cette émission. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique. C'est la chanteuse Sheryl Crow, c'est All I Wanna Do.
I'm dreaming.
Wanted You de l'américaine Sheryl Crow.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour à tous les deux, allez-vous bien?
Mais écoutez, très bien. Jimmy est en studio, oui. Il a de la chance.
Je vais très très bien.
Nous bientôt.
Ah, ouais. Vous êtes content, il y a la liste jalouse comme un peu. Oui.
Voilà, vous avez tout à fait compris.
Et je suis assise à la place de Mélanie, en plus c'est génial.
Non, son fauteuil est extrêmement confortable. On m'a envoyé une photo et j'ai vu que vous aviez respecté la place du chef. Alors Catherine... aujourd'hui, on va
donner des questions.
C'est quand même moi le patron, zut. Après tout. Catherine, aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question de Barbara. Barbara nous a écrit la chose suivante. Mon mari et moi sommes toujours en télétravail, un quotidien pas facile puisque nous avons aussi deux enfants pour nous occuper. L'autre nuit, j'ai rêvé que j'étais à San Francisco, dit-elle. Je prenais du bon temps sans mon mari. J'avais même laissé mes enfants à une inconnue. Est-ce que ce rêve pouvait avoir un lien avec le fait que je ne les supporte plus? Elle y va franco, quoi, on va dire. Catherine, est-ce que Barbara doit interpréter ce rêve de la façon suivante? Je ne sais pas, ça me paraît un peu excessif.
En tout cas, dans la mesure où elle interprète de cette manière, c'est que de toute façon, elle a envie de le dire et de le voir comme ça et de l'exprimer comme ça, sous couvert de rêve. C'est-à-dire, on peut aussi considérer de toute façon qu'il y a des moments, on a beau aimer son mari, on a beau aimer ses enfants, l'idée de jeter par la fenêtre tout le monde et se retrouver dans un ailleurs déconnecté de toutes les responsabilités et leur lourdeur est assez légitime chez chaque être humain. Donc le fait qu'elle l'interprète comme ça, c'est que de toute façon, ça rend compte de cela. Ça ne rend compte pas que de cela. Je pense que plus largement, nous sommes tous enclins à rêver d'autres vies, d'autres libertés, et aussi être attrapés par la patrouille, c'est-à-dire par la culpabilité de laisser ses enfants à des inconnus ou de partir avec trop de légèreté. Donc, la première interprétation est celle que Barbara fait elle-même de son rêve. La deuxième interprétation, qui est plus profonde et qui sort évidemment du contexte du confinement actuel, du confinement non déconfiné complètement par le télétravail, c'est tout simplement la culpabilité que nous portons tous à avoir des envies d'ailleurs, des envies de liberté et jugées comme égoïstes par notre surmoi qui, évidemment, arbitre que nous avons des devoirs à l'égard de ceux que l'on aime et de ceux que l'on fait grandir. Et c'est un peu ce combat, ce conflit interne entre mes désirs à moi, pour moi, et mes devoirs à l'égard des autres. Or, on ne peut pas résumer nos attitudes à l'égard des autres comme étant seulement des devoirs, sinon évidemment ils nous sortent par les yeux.
Ouais. Docteur Jimmy Mohamed.
Le rêve, malgré tout, de Barbara est très détaillé, il semble très réel. Est-ce que c'est un moyen pour Barbara, de se créer une autre réalité?
Je crois que oui, les rêves sont toujours une façon, c'est un exutoire, ça permet justement de ne pas être dans la sauvagerie de nos vies où on arbitre les choses de façon assez lapidaire. Nos rêves sont là pour dire haut et fort, vivre intensément, s'offrir le goût du voyage, puisqu'il n'y a pas que le mari et les enfants, elle est même aux États-Unis, donc elle a pris des avions, donc c'est même au-delà de la simple famille, c'est le gouvernement, c'est tout ça. C'est pouvoir partir au-delà et donc effectivement se donner, et c'est ça qui est formidable, c'est que nos nuits nous offrent un lieu pour dire nos colères, nos blessures, nos ras-le-bol, nos désirs. Et puis après, nous revenons à la réalité de nos échanges et de nos compromis avec les autres, bien évidemment.
Mais Catherine, ce qui est rigolo dans son rêve, ce qu'elle raconte, hein, c'est que donc elle est à San Francisco, vous dites elle a pris des avions. Il y a ses enfants qu'elle a confiés à une inconnue, puisqu'elle le précise, mais le mari n'est pas là. Est-ce que ça remet en question la solidité de son couple ou pas?
Non, ce que, encore une fois, il y a sans doute toujours plus de sentiments de devoir à l'égard des enfants qu'il y a à l'égard du mari. Et là, c'est comme une adolescente qui s'en va, qui n'a plus d'enfants, qui les laisse à une inconnue, comme on laisserait à maman, en quelque sorte, et qui n'a donc pas de mari, parce que ça, c'est une histoire d'adulte. Il y a comme un besoin de retourner en un temps où il n'y avait aucune responsabilité. C'est juste un effacement, ça ne veut pas du tout dire que c'est un effacement de sa vie et de ses responsabilités d'adulte, mais bien sûr que tout le monde y revient derrière. Il n'y a pas de doute à avoir sur le couple, il y a des ras-le-bol souvent, et je crois que c'est sain de les exprimer. Les nier serait au contraire plus périlleux, parce qu'à force de trop nier, vous savez, à un moment donné, nous nous rebellons et l'étincelle vient sur tout et n'importe quoi, alors que pouvoir dire qu'en ce moment, vraiment, c'est plus supportable confortable, tu voudrais pas aller prendre l'air, ou dès qu'on le peut, je vais prendre l'air. C'est peut-être faire le tour du pâté de maison, hein. Ouais. Ça a le mérite de dire que, et de permettre à chacun d'ailleurs de s'exprimer, parce que s'il est insupportable à Barbara, sans doute que Barbara est elle-même insupportable à son mari.
Ouais. Jimmy, une dernière question.
Est-ce que c'est son inconscient finalement qui parle et qui lui dit justement de prendre conscience? Qu'est-ce qu'elle doit faire, Barbara, du coup?
D'abord, s'accorder que peut-être qu'il y a des aménagements, puisque c'est insupportable, on peut toujours voir que l'insupportable vient de l'autre, mais on peut se demander aussi qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour que l'autre me soit plus supportable, c'est-à-dire où est-ce que moi aussi j'ai œuvré à mon enfermement, à ce qui est devenu une insécurité et une intrusion permanente. Donc exprimer tout simplement ou mettre en place des choses petit à petit pour son équilibre, de sorte que les autres ne soient plus la seule raison de son déséquilibre ou de sa souffrance.
Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. Merci Jimmy. On se retrouve bien sûr demain, n'importe quoi, à 15h. Jimmy, vous serez encore en studio demain? Non, vous rentrez chez vous, parce qu'on revient plus tard. Hein. Bon, oui. On revient tous progressivement à Europe 1. Alors vos questions au 39-21 sont toujours les bienvenues. 50 centimes d'euros la minute, n'oubliez pas. Nous y répondrons dès demain. À présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.